action et point de vue. Action et point de vue, réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga.
Le coq chante, l'heure a sonné. Bonjour à tous. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes pour vous proposer un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de l'économie congolaise 66 ans après l'indépendance. De la colonisation à nos jours, l'économie congolaise a suivi un parcours. De Youlou à Denis Sassou Nguesso en passant par Massamba Déba, Marien Ngouabi, Joachim Yombi Opango, Pascal Lissouba, l'économie congolaise a connu un parcours. Les Congolais vont se prononcer sur ce parcours. À la technique, Fred Obunga et Arnaud Ipene, à la réalisation, Benzenzila et Jacques Bakala, dans une collaboration de Davi Asango Teni. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous.
Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les binômes, la vanne à quoi.
Chers auditeurs, le Congo, pays indépendant depuis le 15 août 1960, plusieurs présidents ont succédé à la tête de cette république, de Massamba Déba à Denis Sassou Nguesso, en passant par Marien Ngouabi, Joachim Yombi Opango, Pascal Lissouba. L'économie congolaise a traversé des périodes difficiles après la colonisation. Les entreprises créées après l'indépendance, avec l'aide des pays étrangers, n'ont vécu que quelques années. Tenez, le 12 août 1969, sous le pouvoir de Marien Ngouabi, l'usine de Kisundi a vu le jour avec l'aide de la Chine pour un montant de 1 milliard 200 millions de francs CFA. Le 18 avril 1969, découverte du pétrole à environ 30 km au sud de Pointe-Noire. Le premier forage est l'œuvre de la société Elf Congo et ce forage a commencé ses travaux le 13 mars 1969. L'usine de ciment de l'UTT avait été inaugurée le 25 mars 1968, fruit de la coopération Congo-Allemagne. De même, le 13 décembre 1969, le Congo avait enregistré la pose de la première pierre de la verrerie du Congo avec une production évaluée à 6 000 tonnes l'année. Ceci pour un montant d'investissement de 562 millions de francs CFA. Le 4 avril 1971, l'inauguration de l'usine de poissons de Moussaka par le vice-président du Conseil d'État, le commandant Alfred Raoul, pour un montant de 100 millions seulement de francs CFA entièrement financé par le Congo. Le 17 juillet 1971, inauguration de la ferme d'État de Matumba par le président Marien Ngouabi avec une production de 6 000 tonnes par an. Le 7 juillet 1972, pose de la première pierre de la raffinerie de Pointe-Noire. Le 15 février 1975, inauguration de l'usine Impreco avec un capital de 270 millions seulement de francs CFA. Le 12 de cette même année a eu lieu l'inauguration du complexe annexe de Sotesco avec une production annuelle de 250 000 serviettes de toilette. La plupart de ces entreprises ne restent plus que de noms. Le président Pascal Lissouba, alors premier ministre sous Massamba Déba, affirmait que l'industrie congolaise restait toujours dépendante de l'étranger. Élément d'archives.
L'idéal serait la mise en route de grosses industries à partir de nos richesses, à partir de ce que nous avons comme potentialité. Mais ceci se heurte à un certain nombre de considérations, disons, qui se situent sur le plan international, sur le plan des aides, car nous ne pouvons pas de nouveau créer une industrie sans le concours d'une aide extérieure. C'est une forme d'économie coloniale, autrement dit, peut-être pas strictement cueillette, mais on ne peut pas éviter, disons, longtemps ce mot. On transforme très peu ou le peu que nous transformons ne suffit pas, disons, à lancer nos pays vers l'industrialisation. Je crois que le Congo souhaite construire une économie planifiée, une économie de type socialiste.
L'usine de Kisundi, qui habillait les Congolais, n'existe plus que de nom. Écoutons le directeur de cette entreprise sur la rigueur. C'était dans les années 1970. Élément d'archive.
Depuis un certain moment, nous parlons des normes de la productivité. Tous ceux qui ne seront pas capables d'atteindre ces normes ne mériteront pas le salaire qu'on leur paye actuellement. Parce que le salaire sera calculé en fonction de ce qu'ils ont produit. En ce moment-là, c'est la justice et c'est le principe même du socialisme. Celui qui travaille bien et plus mérite plus. Celui qui travaille moins mérite moins. À chacun selon ses forces. Bon, qu'est-ce qui se passe actuellement? Un camarade qui produit plus de douzaines gagne comme celui qui produit moins de douzaines. Et il a le droit de se dire, mais puisque lui qui fait moins gagne comme moi, ben, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'encouragement.
Ce qui est bien dit d'ailleurs. Sur ce qui avait bloqué le démarrage de l'économie à cette époque, écoutons Claude Ernest Ndalag, toujours élément d'archive.
Ce qui aiguise ce particularisme, c'est l'existence de toute une couche de chefs traditionnels qui ne vivent en fait que du marchandage de leur influence sur les masses paysannes, ce que nous appelons les bureaucraties tribales. Mais dans la mesure où on va balayer cette féodalité, nous aurons déjà éliminé un des freins de l'unité nationale. Jusqu'ici, les gens suivent tel leader de telle région parce qu'ils pensent qu'étant de sa région, il lui donnera du travail facilement s'il arrivait à être au pouvoir.
Il faut dire que l'économie congolaise a enregistré une croissance de 4,2% de 2011 à 2014 en dessous de 8,5% requis pour atteindre les objectifs de développement du PND 2012 2016. La chute des coûts de pétrole a entraîné un déséquilibre macroéconomique et un endettement significatif en conséquence. L'économie globale de la République du Congo est actuellement sous pression. La croissance économique s'affichait à près de 5,3% à la fin de l'année 2017, soutenue par la projection de croissance de l'industrie non extractive, les sociétés comme Sotelco, CFCO, l'ex-SNE sont dans une situation de précarité au plan opérationnel et financier. Que dire de l'économie congolaise aujourd'hui? Les guerres civiles qui se sont succédées ont anéanti celle-ci. À cela s'ajoutent les antivaleurs. L'ancien ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Gilbert Ondongo, sur la santé des entreprises congolaises. Élément d'archive.
Le portefeuille public aujourd'hui, c'est 51 entreprises qui couvrent tous les secteurs d'activité de l'économie. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. La participation de l'État va de 100% maximum à 6% minimum. Notre portefeuille public a une partie qui va plutôt bien, une autre qui va moyennement bien et une autre encore qui va plutôt mal. On peut prendre quelques exemples pour les participations ou les entreprises qui vont bien. On prend une à 100% part de l'État, c'est le port autonome de Pointe-Noire. On peut dire que avec cet établissement public à caractère industriel et commercial, ça va plutôt bien. Saris, somme actionnaire à hauteur de 34%, ça va plutôt bien. On prend les banques, la BSA, la banque chinoise, nous sommes actionnaires à hauteur de 12%, ça va plutôt même très bien. La LCB, la Congolaise de banque, nous sommes actionnaires à hauteur de 11%, ça va bien. Le Crédit du Congo, l'ancienne BIDC, nous sommes actionnaires à hauteur de 9%, ça va plutôt bien. Voilà un échantillon du portefeuille public qui va bien. Et un autre qui va moyennement bien. On peut considérer que notre première entreprise, la SNPC, aujourd'hui, 100% propriété de l'État, va moyennement bien. Tout comme on peut dire du Conseil congolais de chargeurs, c'est un exemple d'un EPIC qui va plutôt moyennement bien. Des exemples des entreprises qui vont plutôt mal. Et là, il y en a beaucoup. J'ai retenu un échantillon de 10 que nous connaissons tous bien. L'ARC, propriété de l'État à 100%, ça va plutôt mal, peut-être même très mal. La BCH, propriété de l'État, en grande majorité, 84%, ça va plutôt mal. On comprend pourquoi, le trafic étant quasiment interrompu pendant longtemps. Cogelo, 90% propriété de l'État, ça va mal. L'usine des pavés, création récente, arrêtée quasiment, ça va mal. Voilà un échantillon des entreprises qui vont mal.
L'ancien Premier ministre Clément Mwamba, paix à son âme, avait réagi au sujet de l'économie congolaise de cette manière. Élément d'archive.
Maximiser au mieux les recettes. C'est bien ce qui est totalement recherché. Partout où on se trouve, Notre souci, c'est bien sûr conforter les ressources, y compris par l'élargissement de l'assiette fiscale et bien sûr de la sécurisation des mêmes recettes.
66 ans après l'indépendance, le Congo a une économie qui se repose principalement sur le secteur des hydrocarbures, qui représente plus de 90% des exportations et environ de la moitié du PIB. Une croissance d'environ 2,8% à 3,3% est anticipée, tandis que le pays s'efforce à diversifier ses activités via les projets de zones économiques spéciales. À l'heure actuelle, la croissance réelle est estimée à environ 5,2%, portée par la hausse de la production et des exportations d'hydrocarbures. Bien que la dette du Congo diminue, l'augmentation des risques de liquidité appelle à une gestion plus rigoureuse. Que dit alors Serge Kemi, économiste, promoteur du Café du Savoir, sur la dette?
Comment concilier l'endettement et le désendettement pour la création des richesses nationales par une stratégie d'industrialisation en République du Congo pose en réalité une question fondamentale de politique économique. Comment un État peut-il utiliser l'endettement comme levier pour investir et créer de la richesse tout en évitant que la dette ne devienne un frein au développement? L'endettement n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Une dette qui finance une infrastructure productive, une usine, une chaîne de transformation agricole, une infrastructure énergétique ou logistique capable de générer des revenus futurs peut être considérée très différemment d'une dette qui finance essentiellement des dépenses sans création de valeur. Quelle dette pour quelle industrie, avec quels résultats et quelles garanties de remboursement? Une question essentielle se repose.
Chers auditeurs, nous recevons un opérateur économique. Bonjour, Monsieur le Président, présentez-vous.
Je suis Paul Nestor Mandibindinga, président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, également directeur général de plusieurs sociétés.
Le Congo célèbre les 66 ans de son indépendance. Quelle appréciation faites-vous à l'économie congolaise 66 ans après?
Oui, 66 ans, c'est vraiment un âge avancé. Et je pense que le Congo devait avoir une maturité après 66 ans. Ce qui est vrai, c'est que les opérateurs économiques traversent les moments vraiment difficiles. Parce que déjà au niveau des entreprises qui travaillent avec l'État, les mesures que le gouvernement a prises sur la décote, c'est une mesure qui est assez excessive. Parce que toutes les entreprises qui sont payées aujourd'hui, ils ne peuvent pas relancer leur activité. Parce que il y a le poids de la décote. Une décote qui va de 35 et 66%, c'est une décote assez forte pour la relance d'économie. Et donc, ces entreprises ont des dettes vis-à-vis des banques. Donc, quand on leur paye un peu, donc on en enlève les 66% ou les 35 ou 25% de la décote, mais ils ont encore des dettes vis-à-vis des banques. Donc, ils payent aussi les banques. Après, ils ne se retrouvent avec rien. Ils ont aussi des dettes vis-à-vis des tierces, des propriétaires de maisons. Et après, l'entreprise ne se retrouve pas. Je pense que l'État devait avoir une mesure assez clémente en faveur des chefs d'entreprise. Parce que, vous savez, s'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'État. Parce que c'est les entreprises qui paient les taxes. Ce sont ces taxes qui permettent de payer les fonctionnaires, de relancer le développement du pays. Quand l'entreprise ne marche plus, à plus forte raison, l'économie. Alors l'État devait voir, vraiment regarder la situation des entreprises. Et s'il y a beaucoup de taxes, ces entreprises finissent par abandonner. C'est pour cela qu'au niveau des statistiques, on dit qu'il y a plus de 1000 entreprises, 2000, 3000, 4 entreprises qui sont créées par jour, par année. Mais à la fin, il n'y aura peut-être que 50, 60 qui arrivent à survivre à cause de la parafiscalité.
Merci Mwanzi Bindinga. Chers auditeurs, le président Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de son discours sur la célébration des 66 ans de l'indépendance du Congo, a mis un accent particulier sur la rigueur pour l'accélération du développement du Congo. On écoute.
Notre pays, la République du Congo, célèbre le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème retenu pour cette célébration, objectif développement, accélérant la marche, résume le chemin parcouru, des avancées réalisées et projette la progression continue de notre peuple vers de nouvelles conquêtes. La mobilisation de la ressource appropriée. À ce sujet, la détermination des pouvoirs publics à mener à bien nos projets de développement ainsi que les réformes économiques et financières en cours demeurent sans équivoque. Pour sa part, notre peuple fait preuve de résilience et assume son destin avec optimisme et confiance. Rappelons aussi que la mise en œuvre de notre projet de société, l'accélération de la marche, requiert la mobilisation de ressources conséquentes, d'où l'impérieuse nécessité pour nous d'explorer l'environnement économique et financier de notre appareil étatique. C'est ce qu'on appelle compter sur ses propres forces. Des secteurs d'activité porteurs, tels les douanes, les ports, les impôts, le foncier, peut annihiler l'évasion de recettes publiques, procurer suffisamment de ressources pour couvrir les charges de fonctionnement de l'État et soutenir l'effort de développement.
Pour la mécanisation de l'agriculture, Denis Sassou Nguesso a lancé la deuxième édition de la foire agricole. Il justifie cette décision.
Nous avons lancé le mot d'ordre d'autosuffisance alimentaire. C'était déjà la fin du siècle dernier. Nous parlions d'autosuffisance alimentaire à l'an 2000. Et nous sommes aujourd'hui 2026. À l'an 2000, nous n'avons pas atteint les objectifs. Vous voyez bien que nous ne nous sommes pas découragés. Nous avons continué à penser qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Aujourd'hui, deuxième édition de la Grande Foire agricole du Congo. Je peux même dire que je suis comblé parce que le mouvement est véritablement lancé et lancé à l'échelle de tout le pays et lancé au niveau de toutes les catégories d'âge, des jeunes, des personnes adultes, mais des personnes âgées. Et lancé aussi au niveau des responsables administratifs, politiques. J'ai décidé que tous les ans, cette exposition, cette foire, la grande foire agricole du Congo, que tous les ans, à la même date.
Oui, l'économie congolaise, 66 ans après, que disent les Congolais? Le téléphone sonne. Il déclare, les Congolais ont soif. Les langues se délient. Ce qui se dit plus bas est dit ici plus haut. Nous ne choisissons pas les intervenants appelés pour participer à la gestion du pays. Un Congolais est en ligne. Il a soif. Allô?
Allô?
Bonjour, prononcez-vous?
Je suis M. Félix Borongapuru, un des invités au bord du Vietnam.
Félix, quelle appréciation faites-vous sur l'économie congolaise 66 ans après l'indépendance?
Le Congo, notre pays, au lendemain de l'indépendance en 1963, avait opté pour une économie planifiée qui tirait ses intérêts sur la vie des entreprises. Selon la gouvernance de l'époque, ils avaient Sotesco, UTF, Ofnacom, ONCPA, Fiat Congo, l'usine des poissons fumés, la fabrique des boîtes d'allumettes, l'OCC, l'office du tabac. Bref, la liste est loin d'être exhaustive. Pendant 7 ans, l'homme congolais n'était pas préparé à gérer la chose publique. Les dirigeants de l'époque, face à la construction du pays, avaient une vision beaucoup plus sur la construction des écoles et des hôpitaux. À travers les ressources qu'ils disposaient à l'époque, ils avaient oublié les routes, les ponts, les aéroports, les stades, les écoles modernes, les hôpitaux. Bref, malgré la pléiade des entreprises à travers le pays, les ressources générées avaient oublié qu'il fallait construire aussi des routes. Et ces routes étaient construites du bout des doigts. Il n'y avait pas de kilométrage de route comme à nos jours. L'homme de l'époque avait confondu gérer la chose publique aux moyens privés. Du coup, les entreprises que nous avons citées ici étaient tombées dans l'irréparable. La faillite est généralisée. À tour de rôle, plus rien n'existe dans le pays. Le Congo de nos jours a commencé à regarder autrement. Actuellement, la nation a choisi le type d'économie gagnant-gagnant avec les partenaires étrangers. Où l'on retrouve ces pays qui placent les entreprises et le Congo tire les bénéfices par les taxes, des impôts et des douanes. Ça ajoute un plus à l'économie nationale, le pétrole, le bois, le ciment, les minéraux. L'économie de nos jours au Mère Elenga est nettement florissante par rapport aux ennuis des débuts de l'indépendance au Mère Elenga.
Féli Oborongaporo, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci pour avoir appelé. Hein.
Merci.
Le téléphone sonne. Allô?
Allô, c'est Mère Elenga, bonjour.
Bonjour, on vous appelle comment, prononcez-vous?
Moi, c'est M. ABC Bémi, je vous appelle depuis Bundi Saint-Benoît.
Que dites-vous?
C'est vrai que l'honnêteté intellectuelle nous demande d'être honnête et de reconnaître que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, quelque chose a été fait, surtout au niveau des infrastructures comme les routes, l'électricité et autres. Malheureusement, M. Merlinga, nous avions en tête que, au sortir de nos indépendances, les déplacements dans notre pays étaient difficiles, à tel point qu'il n'y avait pas de route bitumée. Les moyens de franchissement des cours d'eau étaient rudimentaires et cela, ça donnait de la peine dans les déplacements. Lorsque quelqu'un vous parlera, par exemple, de l'usine qui consistait à écraser le paddy à Evo ou le café, c'était chimérique. Si on vous parlait aujourd'hui, par exemple, de l'usine de séchage de poisson à Moussaka, ce serait un chimère. Si on vous parlait, par exemple, des bateaux modernes qui naviguaient sur le fleuve Congo, ça relève d'un rêve aujourd'hui. Si on vous parlait que l'arrivée du train à Brazzaville, lorsqu'il passait de Pointe-Noire, était une ambiance remarquable, ça devient un rêve. Et donc, M. Merlinga, l'économie, oui, il y a eu des avancées significatives, mais cette économie-là n'a pas satisfait toute la population. Il n'y a pas une compagnie qui dessert les aéroports de notre pays, alors qu'entre-temps, on parlait de l'INA Congo. Et donc, à mon avis, oui, nous reconnaissons qu'il y a des choses qui ont été faites et qui continuent à être faites, mais la conscience du Congolais ne permet pas que tous les Congolais jouissent de l'embellie de cette économie-là.
Merci beaucoup, ABC Denis, pour votre intervention.
Monsieur Elenga, je vous dis merci.
Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Maire Elenga. Ndondo Kolomisa Apesi Ngola Puibambi.
Ndondo Kolomisa Apesi, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Est-ce que l'économie congolaise aujourd'hui peut nous rassurer?
66 ans après son indépendance, l'économie de la République du Congo avance, mais de manière inégale et contrastée. Si le pays affiche des perspectives de croissance encourageantes autour 5,2% en 2026 est mise sur la diversification et le numérique, il reste fortement soumis aux fluctuations du secteur pétrolier et à un niveau de dette élevé. Une croissance en consolidation portée par le dynamisme des hydrocarbures et une amorce de rebond dans les secteurs hors pétrole, l'activité économique progresse. Le pari de la diversification, la mise en place de zones économiques spéciales ZES à Pointe-Noire, Brazzaville et dans d'autres localités vise à réduire la dépendance historique au tout pétrole. L'impératif de la modernisation, les autorités insistent sur la digitalisation des régies financières, douanes, impôts, fonciers pour élargir l'assiette des recettes publiques. La vulnérabilité structurelle, le pays dépend encore largement de ses exportations de pétrole et de gaz, ce qui le rend fragile face aux chocs exogènes des marchés mondiaux. Le poids de la dette et de la trésorerie, malgré les politiques d'assainissement budgétaire, le ratio de la dette publique et met la pression sur la trésorerie de l'État, limite les marges de manœuvre pour les investissements sociaux d'envergure. L'impact social, la conversion de la macro-croissance en emploi formel et en réduction sensible de la pauvreté reste un défi quotidien pour une large part de la population. Donc, M. Omer Elenga, en visionnant ce reportage, y compris les discours officiels formulés lors de la fête nationale sur la trajectoire économique du pays par le chef de l'État, Autorité Soleil, on n'a qu'à dire sans doute l'économie congolaise avance. C'est ça, M. Pascal.
Merci, Ndondo Koli. Misa Pessi. Allô?
Bonjour, M. Omer Elenga.
Bonjour, on vous appelle comment?
C'est de la part de M. Niabana Rollins, M. Omer.
Niabana Rollins, je vous suis.
Vous savez que notre pays a sorti des indépendances, même si on peut mettre cette indépendance sous réserve. Mais nous pouvons dire que le Youlou Amassama Deba, un cadre, ils ont essayé de mettre les industries, les fondamentaux de notre économie, en créant de nombreuses industries pour le décollage économique de notre pays. Et aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de récolter là, c'est cette politique du colon. Donc, la première des choses aujourd'hui, il faut trouver une réelle indépendance. Donc, le Congo doit amorcer sa souveraineté économique. De Ngouabi jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est aussi cette gouvernance qui a fait que malgré les miettes qu'on récoltait, que le colon nous donnait, c'est nous-mêmes, les responsabilités revenaient à nous Congolais de bien faire, de mieux gérer les miettes que le colon nous donnait. Mais malheureusement, cette gouvernance de parents à mieux connaissance, regardez M. Omer avec le bois, on a pu construire les industries. Avec l'exploitation seulement du bois, du café, du cacao, on a pu créer ce qu'on a pu. L'État supportait à payer les salaires, tout ce qui les charges de l'État. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec tous les moyens que offre notre pays, le pétrole, le bois, les mines et tout, mais on est dans le chaos, on ne sait pas comment qualifier cela. Tous les accords signés avec les Occidentaux, là, faut que ces accords soient révisités. Ça, c'est de un. Deuxièmement, mener une politique de gouvernance saine.
Niabana,
Monsieur Omer,
vous ne voyez pas que l'État congolais a gagné plusieurs réformes avec le FMI. Le PIB a augmenté. Reconnaissez quand même ça par rapport au passé, non?
Monsieur Omer, reconnaître, c'est sur le terrain, le panier de la ménagère, les retraités qui ne sont pas payés, les agents de l'université qui ne sont pas payés, les enseignants communautaires, tout ça.
Niabana,
ils ne meurent pas comme chez nous comme ça.
Niabana,
Monsieur Omer,
vous marchez sur des routes que vous ne connaissez pas, qui a construit ça, non?
Mais c'est le tiers que nous avions gagné pour construire ces routes, je ne vois pas. Ou ce n'était pas comme ça aujourd'hui. Il y a eu un grand changement parce que c'est les miettes qu'on nous avait données. Critiquer les souvent sur ça. Nous-mêmes, on est responsables.
Malheureusement, il ne l'a pas fait. Merci beaucoup, Niabana Rollins. Niabana Rollins. Niabana Rollins. Merci, merci, Niabana Rollins, pour votre intervention.
Merci, Monsieur Omer. Merci.
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour. On vous appelle comment?
Je suis le capitaine Guy Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Rousseau.
Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous parlons aujourd'hui de l'économie congolaise 66 ans après l'indépendance. Votre appréciation.
Monsieur le journaliste, sur cette question d'actualité, les 66 ans, l'économie congolaise, je serai bref de ce que je vais dire. D'entrée de jeu, notre économie est au très bas de l'échelle. Excusez-moi du diminutif. Notre pays a quelle industrie productive aujourd'hui? Jusqu'alors, nous dépendons en totalité de l'extérieur. Nous sommes incapables de réhabiliter les industries laissées par les prédécesseurs tels que Kisundi, l'usine de Mokeko. J'en passe. Aujourd'hui, le pays qui était derrière le Congo pour la production du cacao, ces pays deviennent en surface, tels que la Côte d'Ivoire, monsieur le journaliste. Et quand nous allons là-bas, nous sommes fiers de déguster le chocolat et tout qu'on sort. Il serait souhaitable que le gouvernement fasse un effort de réhabiliter certaines industries au lieu de regarder toutefois les institutions financières pour s'endetter. Voyez, monsieur le journaliste, en tout cas, je n'abuse pas de mon crédit. Voilà succinctement ce que je tenais à dire.
Et le PIB du Congo qui a augmenté là, ça ne vous dit rien?
Mais non, mais ça me dit quelque chose, monsieur le journaliste. Mais on ne parle même pas du PIB, mais ce qui se passe à Bambou Mungali, ce sont les paysans qui produisent. Mais l'État produit quoi pour que l'économie puisse vivre, monsieur le journaliste? Les retraités ont des problèmes. Il faut mettre en place un comité technique afin qu'on paye les retraités. Vous trouvez que c'est normal, monsieur le journaliste?
Guy Noël Eba, merci pour avoir appelé. Hein.
Je vous en prie, monsieur le journaliste.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Votre identité, s'il vous plaît?
Monsieur Jean-Bruno Ibarra, depuis le quartier Congo-Chine à Brazzaville.
Que dites-vous au sujet de l'image de l'économie congolaise 66 ans après l'indépendance?
De l'indépendance jusqu'à nos jours, aujourd'hui, c'est une question tabou. Parce qu'il faut parler par secteur, au moins. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est le secteur de l'éducation, parce que la force d'un pays part de la capacité intellectuelle de ses habitants. Donc, dans les années 80, si je me rappelle bien, le pays était le pays le plus alphabétisé, parmi les pays les plus alphabétisés en Afrique centrale. Mais de nos jours, nous n'en parlons plus. Le niveau a baissé partout, pourtant, les infrastructures, il y en a. Bon, les enseignants de qualité, on n'en parle plus. Sur le plan agricole, je pense que ça a été un défi du chef de l'État. Depuis longtemps, il avait décrété l'autosuffisance à l'an 2000. Donc, je sais que c'est une poursuite de cette action jusqu'à nos jours, mais entre-temps, le panier de la ménagère sur le terrain ne se fait pas trop améliorer. Parler de l'économie d'une manière générale, c'est une question taboue, hein, monsieur Omer, s'il vous plaît.
C'est une question taboue. Finalement, vous n'avez pas un point de vue à donner sur le passé et aujourd'hui?
Oui, le point de vue dans le temps. Quand nous avons accédé à l'indépendance, on avait beaucoup de sociétés au Congo. Les Sokofa, l'Ofinacom, le CKN, ainsi de suite. Toutes ces sociétés-là aujourd'hui n'existent plus. Il faut chaque citoyen aujourd'hui appelé à travailler à l'État. Alors que la fonction publique n'est pas capable d'employer tout ce monde-là. Le secteur privé devrait aussi, pareil étatique et privé, devrait aussi évoluer. Vous voyez, monsieur Omer.
Pays évolue. Jean-Bruno Ibarra, nous vous disons merci.
Merci beaucoup, monsieur Omer. Et longue vie à l'émission.
Bonjour, monsieur Omer Elenga. Anissé Faustin, depuis le quartier Birakem à Ouestou.
Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre point de vue?
Oui, c'est exactement ce que vous dites. Depuis l'indépendance, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses ne sont pas encore faites. Nous sommes restés avec 342 000 km², notre superficie. Et nous sommes restés avec moins de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, le Congo est déclaré comme pays très riche parce que son sous-sol regorge beaucoup de richesses. Le sol et le sous-sol. Donc, nous avons tout à gagner. Et notre pays est très riche. Mais malheureusement, il y a un contraste dans ce que nous avons comme richesse, dans les forêts, dans les eaux et tout. Nous avons été traités quelque part comme un pays pauvre. Pourquoi le pays est-il devenu pauvre? C'était une façon de cacher la vérité. Les observateurs honnêtes disent que notre pays est très riche, mais nous ne bénéficions pas de nos richesses. Mais par rapport à ce que nous devrions faire avec nos richesses, nous n'arrivons pas à équilibrer. Il y a une disproportion entre les richesses et les réalisations de notre pays. C'est ça le contraste.
Le pays est beaucoup endetté, non?
D'où vient l'endettement? Et le FMI, comment il est entré dans notre pays? Mais comment on peut comprendre ça? Moins de 5 millions que nous sommes, avec beaucoup de richesses, avec beaucoup d'atouts, Tanga Palm qui a disparu, il y a l'UPC qui a disparu, l'usine de Mokale de Mosaka, l'usine de l'Alimet à Betou, ça a disparu. Qui est à l'origine de cet endettement?
Anissé?
Jamais.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Congo a amélioré la politique d'emploi?
C'est difficile à dire, parce que nous avons encore beaucoup de jeunes sur les bras qui n'ont pas de travail. Améliorer la politique d'emploi, ça suffit. On a déjà recruté tous les enfants qui étaient dans l'enseignement. Les finalistes, je dis non, nous n'avons pas encore réussi.
On n'a pas encore réussi. Merci beaucoup.
Merci, monsieur Omer, les gars, merci.
Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Omer.
Déclinez votre identité.
Gilles Mesmer depuis Pointe-Noire.
Jules Mesmer, je vous écoute.
66 ans après l'indépendance, quelle est la santé de l'économie congolaise? Quelle est la question, sans autre forme, que vous nous posez? Disons-le en tout esprit patriotique que notre économie se porte très très mal dans son ensemble, dans un pays où les gouvernants n'ont pas la politique d'évaluation. Pour qu'un pays se développe, il faut que les dirigeants regardent de loin le passé et regardent également avec conviction et conscience le futur. Le fardeau lourd qui est sur la tête de notre économie est parti bien des années 1969 avec la découverte de l'or noir qui nous a permis d'enterrer les quelques entreprises laissées par Massamba Déba et ses collants, tels que l'ONCPA, l'OCC, Chakona, Ofnacom, Sotesco, Kissindi, Infreco, Sokabilou, l'usine des allumettes et de Betou, Sissoko, les palmeraies de Wando. La liste n'est pas exhaustive. Ces sociétés qui, dans leur globalité, ont été le point de départ de la diversification de notre économie, ont trouvé leur enterrement suite au détournement, à la gabegie financière, à la rupture, à la corruption, aux antivoleurs favorisés par l'impuissance, l'impunité, grand fléau qui gangrène notre pays. Le Congo regorge d'énormes potentiels qu'il ne mérite pas ce classement dans ce monde. Le Congo, pays riche par son sous-sol, ne méritait pas d'être de cette manière. Pour mettre au maire l'horloge à l'heure, les dirigeants devraient voir le rétroviseur afin d'éviter le naufrage des Congolais et du pays tout entier. Voilà à peu près mon point de vue. Merci.
Merci beaucoup, Jules Messimé. Les Congolais ont toujours soif. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Omer Linga. On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolici.
Guy Matondo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Nous vous écoutons.
66 ans après l'indépendance, l'économie congolaise est malade, voire même à l'agonie. Le thermomètre le plus sûr pour déterminer la santé économique d'un pays est le social de population. 66 ans après l'indépendance, on parle du phénomène bébé noir, comportement qui n'existait pas jusqu'aux années 80 et 90. Mais à cause de la souffrance, on parle aujourd'hui des bébés noirs. Le secteur privé qui est censé de booster l'économie est complètement paralysé. Toutes les compagnies qui faisaient la fierté de notre pays avant la guerre n'existent plus. Les jeunes ne savent plus à quel sein se vouer. Les hôpitaux, les écoles et autres services publics manquent du tout. À l'hôpital, à cause d'une ordonnance de 5 000 francs, M. Omer Ilinga. Chaque jour, les retraités meurent de faim. Les chemins de fer, Congo-Océan en sigle CPO, qui jadis était parmi les poumons de l'économie congolaise, est devenu l'ombre de lui-même. Les cheminots ne savent que faire. Le système au pouvoir qui devrait favoriser le climat économique des affaires brille au contraire par la gabegie financière sans précédent. Telle est l'économie, M. Omer Ilinga, de mon intervention. Merci et longue vie à l'émission.
Merci Guy Matondo. Soufflant un peu avec cette musique traditionnelle de Ondjombo, les sauts de Tongo. Souffrez que nous vous arrachions cette musique traditionnelle de Tongo. Allô?
Allô, monsieur le journaliste.
Bonjour.
Bonjour, monsieur Ilinga Olonzobo Zola.
Votre réaction?
C'est compliqué. Compliqué parce que avant l'économie congolaise était bonne parce que c'était aux mains des Français. Comme Massamba gérait, c'est l'économie dépendante des Français. Mais c'est, les gens avaient un peu peur parce que c'était le privé. On pouvait enlever, les choses marchaient bien. Maintenant, quand Marien est arrivé, alors il a nationalisé. Et quand on a nationalisé, avec le comportement complet, ben, rien ne marche. Ça décroît. Chacun pense que prendre l'argent de l'État, bon, c'est pas un problème. Avant, nous, on gérait avec le bois, avec l'agriculture. Il n'y avait pas de pétrole. Même Marien aurait dit bientôt nous allons prendre les travailleurs d'ailleurs quand on a découvert le pétrole, faire la potasse et tout. Mais aujourd'hui, il y a moins trois phases. Il y a ceux que l'État sert avec un peu.
Il est parti. Merci, Olonzobo Zola. Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Maire.
On vous appelle comment? Prononcez-vous.
Fleury Lungele, le département de la Likwala.
Fleury Lungele, votre réaction?
Merci pour cet honneur. 66 ans après les indépendances de l'économie congolaise, nous avons connu les avancées significatives. Ça, il faut reconnaître. Des années 80, de nos jours, dans le volet social, nous avons connu les avancées économiques sur le plan de l'urbanisation. l'humanisation. Il y a une humanisation qui a permis qu'aujourd'hui, le peuple congolais reconvive moins des produits de son sous-sol. Mais ce qui est hélas, M. Omer, on ne peut pas parler d'un pays où d'un développement sans pouvoir tenir compte de son économie. Et l'économie, beaucoup plus sur le plan social. Sur le plan social, aujourd'hui, les difficultés que le peuple congolais a aujourd'hui, M. Omer, les questions d'emploi, le palais du ménage, les routes, quand on parle de l'intégration nationale, nous tenons compte de l'intégration nationale. Prenons le cas de l'Aripoana, M. Omer. Il n'y a pas de bateau, ni d'avion, mais des infrastructures il y a. Mais comment le peuple peut accéder facilement à des grandes villes, M. Omer? Il reste encore à faire, M. Omer. La question de formation. Mais à l'époque de 1960, dès que vous terminez la formation, vous avez l'emploi. Mais de nos jours, aujourd'hui, c'est le chômage. Mais cela est dit à quoi? Mais si les recettes fiscales, M. Omer, le droit n'a jamais été fiscalisé sur le budget national, M. Omer. Si on essaie de faire la comparaison du budget d'hier et le budget d'aujourd'hui, c'est comme le jour et la nuit. Mais plus le budget est haussé, on hausse, mais plus le problème, mais il y a que les difficultés que nous vivons, M. Omer. Je pense que le gouvernement a le devoir de faire d'abord le bilan. Et le bilan, quand on essaie de voir 50 conditions, le gouvernement a failli. Puisque aujourd'hui, on peut parler d'un peuple ou d'un développement si le projet volier social est mis en place.
Merci beaucoup, Flori Lungele, depuis Fundo.
Je suis plutôt au contraire, c'est à moi de vous dire quoi là, attendez.
Terminons enfin ces appels avec ce Congolais qui a soif. Allô?
Allô?
Allô, monsieur Omedelenga, bonjour.
Bonjour, on vous appelle comment, présentez-vous?
Je suis Celsius Simon Biendi, Ndibusuko, village Mioubi dans le district de Nyanga.
L'économie congolaise est 66 ans après l'indépendance. Quelle appréciation donnez-vous à cette économie aujourd'hui, Simon Pierre?
C'est avec beaucoup de tristesse que je peux donner mon point de vue parce que tout le Congo semblait bien commencer. On peut même situer le Congo en deux ou trois étapes. Après la colonisation, quand les Congolais ont commencé à gérer, nous avons vu une floraison de certaines unités de production. Dans Tsumba, avec l'usine de fabrication des allumettes par-ci par-là, du poisson. Donc, M. Omer, après cette période-là, dès qu'on a engagé cette affaire-là de révolution marxiste-là, le Congo a commencé à percuter. Dès qu'on a commencé avec la nationalisation des usines et autres, le pays commençait déjà à tomber en ruine. Nous n'allons pas tout oublier. Il y a quelque chose qui se fait, mais c'est pas de manière ordonnée. Aujourd'hui, on commence un peu à faire comprendre aux Congolais qu'on peut encore faire quelque chose avec l'agriculture. Et pour le moment, ma notation n'est pas bonne quand même. Hein. Je peux donner 4 ou sinon 5 sur 10.
Vous donnez 4 sur 10 et vous marchez sur des routes que vous ne connaissez pas, qui les a fait, c'est pas aujourd'hui là?
Oui, les routes. Je ne condamne pas le gouvernement. Le gouvernement a fait quelque chose. Il n'y a pas seulement la route de Congo. Il y en a d'autres routes. Je ne suis pas satisfait de ce qu'est notre économie nationale.
Merci beaucoup, Simon Pierre.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer.
Merci.
Ouf.
Donc au fond d'Abino Lelo, et pas un papa.
Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois.
Au sortir de l'indépendance, les Congolais avaient quand même pris conscience. Et la gestion du pays était dans les mains des Congolais. Nous sommes les colonisés. Pourtant, à cette période, on avait moins de cadres. Mais la gestion de l'économie congolaise était respectée. Et le pays allait quand même un peu avant. On n'avait que le bois, et plus la douane et les impôts. On arrivait quand même, bien qu'il y avait la croissance démographique était un peu moindre. Mais on avançait quand même en respectant l'administration du pays. Tout allait normalement, conformément à ce que le pays traçait comme ligne, franchement. Imaginez-vous, par exemple, quelqu'un qui va dans une école de formation, 2 mois après, son salaire passe. C'était même 1 mois. Et il n'était pas chômeur. Il y avait l'ordre établi. Aujourd'hui, nous avons tout ce qu'il faut pour développer le pays. Et il y a certains pays ici en Afrique qui ne vivent que de certaines matières premières.
Pour moi, je dis que le Congo marche à reculons.
Vous voyez que depuis longtemps, notre économie se reposait sur l'agriculture. Je vois par là le bois, je vois le cacao, le café et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est normalement vers les années 60 jusqu'au moins 70, notre économie se reposait sur l'agriculture. Bien, les gens ont abandonné carrément d'autres secteurs. Ils se sont penchés sur le pétrole, alors que l'économie qui se repose sur le pétrole est une économie décadente. Parce que aujourd'hui le dollar 200, demain le baril de pétrole, quelquefois une chute libre. Alors, moi je pense bien que ce qu'on devait faire, c'est regarder comment faut-il aller avec l'économie congolaise. C'est-à-dire voir tous les secteurs possibles. Donc pour moi, l'économie, hein, ça ne tient pas.
La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de tenir compte de cette fiche pour améliorer les performances de l'économie congolaise. Si les défaillances ont été enregistrées dans la gestion de l'économie congolaise, cela est une leçon qui doit nous réveiller pour accélérer le développement du Congo. C'est la fin de cette production qui a connu la technique de Fred Obunga et Arnaud Ipiné. La réalisation était l'œuvre de Benzenzila et Jacques Bakala dans une collaboration de Davi Asangoteni. Omer Ilinga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, réaction des Congolais sur le discours du président Denis Sassou à l'occasion de la célébration des 66 ans de l'indépendance du Congo. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayo. Au revoir et à très bientôt.
C'était Action et Point de vue, Omer Ilinga.